D'un côté, il y a la protection des enfants, un objectif absolument essentiel. Et de l'autre, la protection de notre vie privée en ligne, un droit fondamental. C'est tout l'enjeu du débat, disons-le, explosif, autour de la proposition de l'Union européenne qu'on a surnommée le « chat control ». Alors, rentrons dans le vif du sujet. Officiellement, tout part d'une intention que personne ne peut contester. En 2022, la Commission européenne présente une loi pour, je cite, « protéger les enfants contre les abus sexuels en ligne ». Bon, c'est un objectif noble, nécessaire, là-dessus, a priori, tout le monde est d'accord.
Mais voilà, que se passe-t-il si la solution pour y arriver, c'est de scanner absolument chaque message privé, chaque photo, chaque fichier qu'on envoie ? C'est précisément là que cette bonne intention se transforme en ce que beaucoup d'opposants appellent un projet de surveillance de masse sans précédent. Alors voyons voir de plus près ce que ce plan, aussi connu sous le nom de CSAR, propose. Comment ça marcherait concrètement ?
En gros, le principe est à la fois simple et radical. Il s'agirait d'obliger les fournisseurs de services, comme les applications de messagerie qu'on utilise tous les jours, à installer une technologie pour scanner automatiquement toutes nos communications privées. Et attention, on ne parle pas de surveillance ciblée sur des suspects, mais bien d'une analyse généralisée, pour tout le monde.
Et là où ça devient très technique, et pour certains très inquiétant, c'est la méthode. La technologie pourrait analyser le contenu directement sur l'appareil, avant même que le message soit chiffré. C'est ce qu'on appelle l'analyse côté client. Et ça, ça remet en cause le principe même du chiffrement, dont le but est de garantir que seul l'expéditeur et le destinataire puissent lire le message. C'est comme si quelqu'un lisait par-dessus notre épaule avant même qu'on ait scellé l'enveloppe.
Bon, alors, pourquoi est-ce que ce projet a fait lever autant de boucliers ? Les critiques, que ce soit des experts en technologie ou des défenseurs de la vie privée, ont identifié 6 risques majeurs. Voyons ça point par point.
Le premier, c'est la surveillance de masse. Il faut imaginer un peu. Chaque message, chaque photo de vacances, chaque conversation privée, scannée, sans aucun soupçon, sans consentement. C'est un peu comme si la Poste se mettait à ouvrir toutes les lettres, juste au cas où. Ça reviendrait à mettre les 450 millions de citoyens de l'UE sous une surveillance de principe, ce qui va à l'encontre de la présomption d'innocence.
Deuxièmement, la rupture du chiffrement. Pour pouvoir scanner les messages, il faudrait créer des failles, des sortes de portes dérobées, dans le système de chiffrement qui protège nos communications. Le problème, c'est que ce même chiffrement sécurise aussi nos données bancaires, nos infos médicales. L'affaiblir pour une raison, c'est l'affaiblir pour tout le monde, y compris pour les pirates et les criminels.
Troisième point, et pas des moindres, les droits fondamentaux. Le droit à la vie privée et à la protection des données, ce n'est pas un détail, c'est inscrit noir sur blanc dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Ce projet viendrait donc saper des valeurs qui sont au cœur même de la démocratie européenne.
Quatrièmement, un problème très concret, les faux positifs. Les algorithmes qui feraient ce scan sont loin d'être parfaits. Ils peuvent très bien se tromper et signaler une photo de famille à la plage comme étant suspecte. Et là, c'est le drame, des personnes innocentes pourraient se retrouver au cœur d'enquêtes et d'accusations potentiellement dévastatrices.
Cinquièmement, et c'est peut-être le plus grand paradoxe de cette histoire, de nombreuses organisations de protection de l'enfance pensent que cette mesure serait en fait contre-productive. Pourquoi ? Parce qu'elle détournerait d'énormes ressources de méthodes qui, elles, ont fait leurs preuves, comme les enquêtes ciblées. Et puis, en affaiblissant la sécurité pour tous, elle rendrait aussi les enfants plus vulnérables à d'autres risques en ligne.
Et enfin, il y a l'effet domino à l'échelle mondiale. Si l'Union européenne, bastion des droits de l'homme, adopte une telle loi, ça crée un précédent, un modèle que des régimes autoritaires n'hésiteraient pas à utiliser pour justifier leur propre système de surveillance de masse et réprimer la liberté d'expression.
Et puis, il y a le détail qui a peut-être le plus choqué, l'hypocrisie. Les politiciens à l'origine de cette proposition de surveillance se sont eux-mêmes exemptés de ces règles en invoquant le secret professionnel. Autrement dit, la règle s'appliquerait aux citoyens, mais pas à ceux qui la font.
Avec des enjeux pareils, forcément, ça coince au niveau politique. Le projet a créé une véritable impasse. Voyons un peu où en est la bataille au sein de l'Europe.
Ce graphique le montre très bien. L'Union européenne est complètement coupée en deux. On a un bloc de 12 pays qui soutiennent le projet, face à un autre bloc presque aussi grand de 9 pays qui s'y opposent. Et au milieu, 6 pays indécis qui font pencher la balance. Cette absence de consensus explique pourquoi, pour l'instant, la loi est au point mort.
Et cette division a eu une conséquence très concrète. La présidence danoise de l'UE a dû retirer le vote qui était prévu mi-octobre 2025. C'est une victoire temporaire, mais une victoire quand même, pour les opposants au projet.
Mais attention, il ne faut pas crier victoire trop vite. Le retrait du vote, c'est juste une pause. Le débat est très loin d'être terminé, et les idées au cœur du chat control pourraient très bien revenir sur la table, peut-être sous une autre forme.
En fait, cette pause nous place à la croisée des chemins pour notre avenir numérique. D'un côté, on a la voie du chat control, surveillance généralisée, affaiblissement de la sécurité pour tous, et de l'autre, on a une vision alternative, celle qui consiste à renforcer le chiffrement pour protéger tout le monde et à concentrer les ressources sur des enquêtes policières ciblées et efficaces, basées sur des soupçons réels. Finalement, tout ce débat technique nous ramène à une question très humaine. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour la sécurité ? Sommes-nous vraiment obligés de choisir entre la sécurité d'un côté et la vie privée de l'autre ? Ou est-ce qu'il n'existerait pas une troisième voie, plus intelligente, qui permettrait de garantir l'une sans pour autant sacrifier l'autre ? L'avenir de notre vie privée en ligne dépend de la réponse qu'on apportera à cette question.